Chers frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver en quelque sorte ce matin. Évidemment, je ne suis pas avec vous ce dimanche matin. Nous sommes partis pour le mariage de Séphora, la sœur d'Esther. Et c'est l'occasion. Mariage, les cérémonies de mariage sont toujours l'occasion de nous réinterroger sur la question de l'amour. Et évidemment, la question de l'amour de Dieu pour nous. Alors j'aimerais continuer dans les promesses de Dieu, cette série des promesses que Dieu fait à ceux qui lui appartiennent. Nous avons vu la promesse de sa présence et nous avons vu la promesse de son pardon. Et j'aimerais ce matin voir avec vous la promesse de son amour. De la même manière que Séphora et Andrew se sont promis de s'aimer pour la vie, eh bien, nous avons de la part de Dieu une formidable promesse qui est celle de son amour. Et sans doute, le passage, un des passages les plus forts sur cette promesse d'amour de Dieu pour nous, nous le trouvons dans l'Épître aux Romains. Je vous invite à prendre avec moi en Romains au chapitre 8. Ce passage, versets 38 et 39, Romains 8, versets 38 et 39, Paul dit la chose suivante, une chose sûre et certaine, et il dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quelle promesse formidable! Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Amen! Rien! Alors, une première chose que j'aimerais voir avec vous par rapport à la promesse d'amour de Dieu pour nous, eh bien c'est que l'amour est dans la nature même de Dieu. L'amour fait partie de lui. L'amour définit Dieu en quelque sorte, en tout cas. L'amour et Dieu sont indissociables. Nous voyons cela dans la première épître de Jean. 1 Jean au chapitre 4. Prenez avec moi 1 Jean au chapitre 4. Et au verset 7 et 8. 1 Jean 4, au milieu du verset 7, nous sommes appelés bien sûr à nous aimer les uns les autres, mais le milieu du verset 7 nous donne la raison et dit ceci, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alors il y a ce double mouvement dans ce passage. Le verset 7 nous dit l'amour est de Dieu, et le verset 8 nous dit Dieu est amour. L'amour est dans la nature même de Dieu, et voilà pourquoi nous pouvons compter sur la promesse de son amour bien plus que sur n'importe quelle autre promesse d'amour que quelqu'un pourrait vous faire. Ah oui, on peut promettre à quelqu'un de l'aimer, mais l'amour n'est pas dans notre nature. L'amour n'est pas indissoluble de notre identité. Par contre, c'est le cas pour Dieu. L'amour fait partie de son identité, de qui il est. Dieu est amour. L'amour est de Dieu. Et voilà une chose formidable, parce que lorsqu'il nous promet que rien ne pourra nous séparer de son amour, lorsqu'il nous promet qu'il nous aimera toujours, eh bien, nous n'avons pas à craindre, nous n'avons pas à douter que ce soit une promesse d'un jour, mais pas une promesse pour toujours. Que son amour soit présent aujourd'hui, mais qu'il ne le soit pas demain. Parce que cette promesse de nous aimer, elle est faite par quelqu'un dont l'amour est dans son identité. Voilà quelque chose de formidable. En deuxième lieu, nous pouvons voir ce que Dieu a déjà fait pour nous par amour. Par amour, eh bien, Christ est mort pour nous. Nous le trouvons dans deux passages. En Romains 5, verset 8, Romains 5, verset 8, je lis, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et nous le trouvons aussi en 1 Jean 3, verset 16, 1 Jean 3, 16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Alors, par amour, Christ est mort pour nous. Dieu, par amour, nous a sauvés. Lisons Tite 3. Tite chapitre 3, verset 4. Tite 3, 4. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Formidable. Il nous a adoptés par amour. C'est la troisième chose, il nous a adoptés par amour, comme ses enfants. Deux passages qui nous en parlent, toujours la première épître de Jean, une épître sur l'amour. 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et puis, en Éphésiens, au chapitre 1, Éphésiens chapitre 1, au verset 5, Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Quatrièmement, ce que Dieu a fait pour nous par amour, nous le trouvons toujours dans l'épître aux Éphésiens, mais cette fois-ci au chapitre 2. Éphésiens 2, à partir du verset 4, Éphésiens 2, 4, nous dit ceci, quatrième chose que Dieu a fait pour nous par amour. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, nous avons besoin de nous rendre compte de ce que Dieu a fait par amour. Parce que la promesse de son amour n'est pas une promesse en action pour plus tard, je vais t'aimer. Mais elle nous dit déjà, je t'ai aimé. Et cette promesse que Dieu nous aimera demain, eh bien, elle s'ancre dans le fait qu'il m'a déjà aimé hier. Dans le fait que Dieu ne promet pas simplement de m'aimer à l'avenir, mais il me promet de m'aimer dans l'avenir, en m'ayant montré et en me rappelant qu'il m'a aimé dans le passé. Et il est bon de nous rappeler ce qu'il a fait pour nous par amour. Il a donné sa vie à notre place. Dieu le Père a sacrifié son Fils bien-aimé pour me sauver. Par amour, il m'a sauvé. Pas par intérêt, par amour. Par amour, il m'a adopté. Il a fait de moi son fils, il a fait de toi son fils, il a fait de toi sa fille. Et puis, par amour, quelque chose de formidable qui va bien au-delà quelque part du simple fait que nous soyons pardonnés de nos péchés, que nous ayons la vie éternelle comme espérance. Ce passage d'Éphésiens 2 qui nous dit qu'il nous a rendus à la vie, il nous a ressuscités avec Christ et nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes, par amour. Quelque chose qu'il a fait et qui touche au plus profond de notre identité parce que cela touche à notre position associée à Jésus-Christ. Nous sommes morts avec Christ, nous sommes ressuscités avec Christ et nous sommes associés à lui dans sa résurrection. Et Dieu le Père qui a fait asseoir Christ dans les lieux célestes, eh bien par amour nous a fait asseoir avec lui dans ces lieux célestes. Voilà notre position spirituelle. Nous ne sommes pas plus simplement des êtres humains qui avons les pieds sur terre et la tête sur terre. Non, dans notre âme, quelque chose a été fondamentalement changé par amour. Nous avons été associés à Jésus-Christ. Nous sommes dans la même position que lui. Et c'est pourquoi Romains 8, nous ne l'avons pas lu tout à l'heure, mais rajoute la chose suivante, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, maintenant, pour continuer à réfléchir ensemble dans la promesse de Dieu de nous aimer, la promesse de son amour, rendons-nous compte que cette promesse, elle est inconditionnelle. C'est le troisième point que je voudrais voir avec vous. Le premier, c'était que l'amour est dans la nature même de Dieu. Le second, c'était que ce n'est pas simplement une promesse pour le futur. Et nous avons vu ce que Dieu a déjà fait pour nous par amour. Et maintenant donc, le fait que nous sommes de manière inconditionnelle, il n'y a pas de condition, nous sommes l'objet de l'amour de Dieu. Dieu nous aime sans condition. Nous le voyons donc en Romains 5, versets 7 et 8. Romains 5, versets 7 et 8 nous dit ceci. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Formidable ce texte. Pour qui est-ce qu'on accepterait de donner notre vie? Alors on se dit, pour quelqu'un qui en vaut la peine, pour quelqu'un de vraiment bien, pour quelqu'un de formidable, à la rigueur peut-être que je serais prêt à sacrifier ma vie. Mais Dieu, comment prouve-t-il son amour? Eh bien, dans le fait que alors qu'on était encore des pécheurs, il a donné sa vie pour nous. Il n'a pas donné sa vie pour des gens géniaux, super, bien, pour lesquels on a vraiment envie de donner sa vie, non. Il a donné sa vie parce qu'il nous aimait de manière inconditionnelle. Et nous étions encore des pécheurs. La lettre que Paul adresse à Tite, précise un petit peu les choses. Je vous invite à prendre avec moi Tite au chapitre 3, pour bien comprendre la profondeur de ce que ça veut dire que Dieu prouve son amour dans le fait que, alors que nous étions encore des pécheurs, il est quand même mort pour nous, il a quand même donné sa vie à notre place. Tite, chapitre 3, verset 3, nous dit: Nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Nous avons relu un passage que nous avions déjà lu tout à l'heure, mais pas le premier verset. Et dans ce verset rajouté, on voit quel caractère est celui des hommes et des femmes que pourtant Dieu a aimé du plus profond de son cœur à cause du grand amour dont il nous a aimés. Et il a donné sa vie pour nous. Nous n'étions pas des personnes forcément digne d'être aimé? Ce texte nous dit, même d'un point de vue très objectif, que nous étions plutôt dignes d'être haïs, détestés. Et Dieu ne nous a pas sauvés en raison de nos bonnes œuvres, des œuvres de justice, pour le bien qu'on fait, pour parce qu'on se dit, ouh, on a vraiment affaire à quelqu'un là, ça vaut la peine d'investir sa vie. Non, il nous a sauvés juste par un amour désintéressé, inconditionnel, immense et profond. Ça, c'est quelque chose de formidable. Vous savez, quand on se marie, puisque j'ai choisi ce message dans le contexte du mariage de ma belle-sœur, qui nous fait réfléchir à l'amour, eh bien, quand des gens se mettent en couple, parce qu'ils s'aiment, a priori, toujours quelque part, on se demande, est-ce que je vais être encore aimé dans 10 ans, dans 20 ans? Est-ce qu'il va encore aimer chez moi, mon conjoint? Est-ce qu'il va encore aimer chez moi ce qu'il aime aujourd'hui? Est-ce que je vais toujours être aimable, désirable, comme il m'aime et qu'il me désire aujourd'hui? Et il y a quelque part une insécurité dans le fait que notre amour, à nous qui sommes humains, est un amour très conditionnel. Il y a des conditions à remplir pour qu'on aime les gens. J'aime telle personne à condition qu'elle soit comme ceci, comme ceci, comme cela. Sinon, non, je l'aime pas. Eh bien, ce n'est pas le cas de notre Dieu. Dieu ne nous aime pas à cause de choses aimables en nous. Il nous aime tout simplement. Et il nous aimera toujours. Il nous a aimés alors que nous étions égarés, désobéissants, asservis à toute espèce de convoitise, de volupté, digne d'être haï, vivant dans la méchanceté. On arrête là. S'il m'a aimé dans cet état, alors il continuera de m'aimer. Et c'est rassurant de savoir que Dieu m'aime d'un amour absolument sans condition. Quelle sécurité pour notre âme, pour notre cœur. Merci Seigneur. Amen. Quatrième point que je voudrais maintenant aborder avec vous, le fait que notre réponse d'amour à l'amour de Dieu nous fait entrer dans certaines bénédictions spécifiques. Alors, entendons-nous bien. 1 Jean 4, verset 19 nous dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et voilà pourquoi je parle de notre réponse d'amour à l'amour de Dieu. Il nous a aimés le premier et pour celles et ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, qui ont compris est Dieu qui s'est fait homme pour venir mourir à notre place, porter le châtiment de nos péchés, nous prendre par la main et diriger notre vie. Pour celles et ceux d'entre nous qui avons mis notre main dans celle de Jésus-Christ pour le suivre, dans la repentance, la foi et l'amour, eh bien la réponse à l'amour de Dieu que nous avons donné est notre amour. Notre amour à notre niveau, bien faible, pas toujours très fidèle, mais que Dieu veut faire grandir, veut faire croître. Et il nous a aimés le premier. Il a commencé. Et du coup, comme il nous a aimés, comme nous nous sommes sentis aimés de lui, alors nous avons répondu par un amour pour lui en réponse au sien. Et j'aimerais voir trois versets avec vous qui parlent de bénédictions spécifiques pour ceux qui aiment Dieu. Pour ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire pour ceux dont la réponse à l'amour de Dieu a été de l'aimer. Voilà le premier texte, c'est en Romains. Romains 8, verset 28. Romains 8, 28. Nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Formidable. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà une bénédiction spécifique pour ceux qui ont donné une réponse d'amour à l'amour que Dieu leur a manifesté. Formidable. La promesse d'amour de Dieu va pour nous dire, jusqu'à nous dire, tu sais, sache que je fais concourir les événements de la vie, ce qui peut arriver, les épreuves, les difficultés, les portes qui s'ouvrent, telle ou telle chose. Elles sont dans ma main et sache que je les fais travailler ensemble pour parvenir à ton bien, pour construire ton bien. Parce que tu m'aimes et parce que je t'aime. Dans la promesse d'amour de Dieu, il y a cette certitude fondée sur l'amour que Dieu travaille à notre bien au travers de toutes les choses qui peuvent arriver, elles ne sont pas là en roue libre, sans contrôle, sans rien. Elles sont dans la main d'amour de Dieu parce que nous lui avons répondu « Je t'aime aussi ». Un deuxième texte de ces bénédictions spécifiques pour ceux qui aiment Dieu est le texte d'1 Corinthiens 2, verset 9. Et dit, s'il s'agit de la sagesse de Dieu. Au verset 7, Paul dit, nous prêchons la sagesse de Dieu. Et au verset 9, 10, il dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Et un peu plus tard dans le texte, il dit, ces choses-là, elles sont une folie pour ceux qui n'ont pas l'esprit, elles sont une folie pour ceux qui n'aiment pas Dieu, qui ne sont pas en lui. Mais pour nous, le Seigneur nous les fait comprendre, il nous révèle sa sagesse et des choses qui ne viendraient pas comme ça. Eh bien, Dieu les a préparées pour ceux qu'il aime. Et il est bon de traverser l'existence, frères et sœurs, avec ces choses, cette compréhension de la sagesse de Dieu, traverser l'existence avec cette compréhension-là, réservée, préparée par Dieu pour ceux qu'il aime. Voilà une chose qui accompagne cette promesse de Dieu de nous aimer. Et puis le troisième texte est dans l'épître de Jacques, Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Oui, on est tenté. Oui, on est éprouvé. Et nous sommes invités à résister à la tentation et à ne pas renoncer au sein de l'épreuve. Et il y a une récompense précieuse que Dieu donne à ceux qui l'aiment. Il donnera la couronne de vie. Lorsqu'on aime quelqu'un, on veut le récompenser. Et dans la promesse d'amour de Dieu, il y a cet encouragement pour dire oui, c'est vrai, c'est difficile, oui, il y a des efforts, oui, il y a un chemin pas évident, mais vas-y et je vais te récompenser. Nous n'avons pas un Dieu qui, tout au contraire, va dire t'as intérêt à y arriver, sinon tu vas prendre une raclée, tu vas voir. Le Seigneur nous dit, il nous prépare une couronne de vie vis-à-vis de la tentation et de l'épreuve auquel nous aurons réussi à franchir, passer le cap. Voilà une couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Voilà, nous voulons terminer simplement en disant que l'amour de Dieu est un amour qui agit pour nous. Nous avons vu ce qu'il a fait dans le passé, mais nous savons que l'amour de Dieu, il agit dans le présent et il agira dans l'avenir. Ce n'est pas, comme il est dit quelque part à propos de l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres, il dit « n'aimez pas en parole seulement ». Hein, c'est blablabla, blabla, je t'aime, mais je fais jamais rien. Mais en action et en vérité, c'est de cet amour-là que Dieu nous aime. Et Jésus en a été le modèle. Le modèle de cet amour qui agit en soin. L'amour prend soin. C'est dans l'évangile de Jean. Au chapitre 13, que nous le voyons. Jean, au chapitre 13 et au verset 1, c'est vraiment la fin du ministère de Jésus. Avant sa crucifixion, et il est dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et ce qui suit va donc être le fait de leur laver les pieds. Il se met dans cette posture du serviteur pour ses disciples qui prend soin d'eux. Il met le comble à son amour pour eux. C'est ainsi que Dieu agit et agira et continuera d'agir fidèle à sa promesse de nous aimer. Amen. Un amour qui agit, c'est formidable. Alors, un petit clin d'œil néanmoins de cet amour qui agit, et c'est contenu dans la promesse d'amour, quelque chose qui nous plaît peut-être un peu moins. Mais on n'allait pas terminer de voir cette promesse de Dieu de nous aimer sans cet aspect qui manquerait. En Apocalypse 3, 19, Jésus dit « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. » L'Épître aux Hébreux nous parle de cela. Du fait que c'est comme des fils que Dieu nous châtie parce qu'il nous aime. C'est comme des fils que Dieu aime. Et effectivement, dans la promesse d'amour et dans la promesse d'un amour qui agit, eh bien, il y a aussi cet aspect d'une éducation, de cette éducation qu'un père donne au fils qu'il aime. Parce qu'il les aime et il ne veut pas qu'ils se perdent, il ne veut pas qu'ils s'abîment, il ne veut pas qu'ils deviennent n'importe quoi. Pour ne pas qu'ils deviennent n'importe quoi, parce qu'il les aime précieusement, alors le Père va corriger, va châtier, va éduquer. Et parfois, il y a un aspect de tristesse qui est derrière. L'Épître aux Hébreux nous dit, il est vrai que tout châtiment, hein, toute éducation d'enfant semble tout d'abord un sujet de tristesse, mais plus tard, il produit un fruit paisible de justice et on en est heureux et on peut s'en réjouir. Voilà aussi le fait, cette promesse, quand Dieu nous dit qu'il nous aime et qu'il nous promet de nous aimer et que rien ne nous séparera de son amour, oui, il y a aussi cette promesse d'amour de dire « je ne vais pas te lâcher, et s'il faut te corriger, je te corrigerai parce que je t'aime, et je ne vais pas te lâcher, je t'aime. » Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette formidable promesse d'amour. Seigneur, nous avons besoin d'amour. Dans notre cœur, nous sommes des êtres qui avons soif d'être aimés. Et Seigneur, nous voulons nous rendre aimables ou dignes d'amour. On espère avoir suffisamment de valeur pour que quelqu'un nous donne son amour. Et nous avons peur qu'il ne nous l'enlève. Si nous n'avons pas assez bien fait, si nous ne sommes plus assez bien, assez beau, assez bon, assez plaisant. Seigneur, nous avons soif d'être aimés, et c'est toi qui viens et qui peux pleinement combler notre besoin d'être aimé. Tu nous mets en sécurité dans notre cœur à cet égard, avec cette promesse de nous aimer qui vient de toi, notre Dieu, que l'amour défini. Tu nous dis, Dieu est amour. Et tu veux que ce Dieu qui est amour, ça résonne à nos oreilles. Pour ancrer, fonder solidement ta promesse. Tu promets quelque chose qui est dans ta nature la plus profonde, indissoluble de toi, ô notre Dieu. Merci pour cela. Tu nous as prouvé ton amour en nous sauvant, en nous pardonnant, en nous rachetant, en nous adoptant, alors que nous n'étions pas forcément aimables. Tu nous as aimés. Tu nous aimes sans condition. Tu nous aimeras toujours, même quand nous chutons, même quand nous sommes infidèles, même quand nous redevenons mauvais, charnels même. son amour à toi ne cesse pas. C'est un amour qui agit. Merci Seigneur, parce que ton amour nous fait rentrer dans des bénédictions spécifiques pour nous qui t'aimons en retour. Merci pour cette sagesse avec laquelle tu nous permets de traverser l'existence, une sagesse que tu as réservée pour ceux qui t'aiment. Merci pour le fait que ton amour fait travailler toutes choses ensemble pour notre bien, pour le bien de ceux qui t'aiment. Merci pour cela. Merci parce que, comme Jésus l'a fait pour ses disciples, ton amour veut mettre le comble à l'amour. Et tu agis avec tant de soin pour nous. Et Seigneur, s'il faut passer par une correction, un châtiment, cette éducation d'amour du Père pour ses fils, on veut t'en remercier. Parce que tu ne nous lâches pas et que s'il faut nous redresser, Seigneur, parce que nous en avons besoin, c'est encore ton amour qui le fera. Merci pour cette formidable promesse que nous voulons nous rappeler ensemble, que nous voulons fêter, que nous voulons célébrer. Loué sois-tu, ô notre Dieu. Amen.